Les idées claires.
Bonjour Brice Couturier.
Bonjour Guillaume Erner.
L'économie de l'Afrique, plutôt brillante il y a quelques années, connaît un trou d'air. À quoi l'attribuer ?
Oui, les grands espoirs placés dans l'économie subsaharienne font place aux doutes. Cette immense région, la mieux dotée du monde en ressources naturelles, a connu des taux de croissance spectaculaires avant la crise de 2008, entre 7 et 8% l'an. Cela a provoqué l'émergence d'une classe moyenne relativement importante. Des métropoles économiques dynamiques comme Nairobi, Lagos, Johannesburg ont vu affluer les investissements et pousser les start-up, las, sont intervenues depuis la chute des cours des matières premières, provoquée elle-même par l'atterrissage de l'économie chinoise. Les Chinois, devenant moins gourmands en matières premières, eh bien leurs prix ont plongé. Les gros producteurs de pétrole de leur côté, que sont le Nigeria et l'Angola, ont vu leur croissance plombée par la chute abyssale des prix du pétrole. Ces deux pays, d'ailleurs, devront probablement se tourner vers le FMI cette année pour obtenir des plans de sauvetage. Et la croissance de l'Afrique s'essouffle. Elle tourne seulement actuellement autour de 3%. Vous me direz, nous nous en contenterions volontiers en Europe, mais l'Afrique, contrairement à l'Europe, connaît une croissance démographique impressionnante. Sa population actuelle devrait doubler d'ici 2050 selon les Nations Unies. Aussi, une croissance moyenne se traduit par un revenu par habitant en stagnation. Alors malgré tout, les raisons d'optimisme pour l'avenir ne manquent pas. Une grande partie de la croissance récente de l'Afrique, écrit l'ancienne ministre des Finances du Nigeria, Ngozi Okonjo-Iweala, est attribuable à des politiques macroéconomiques judicieuses et à une gestion économique avisée. Et l'hebdomadaire britannique The Economist en convient d'ailleurs, qui écrit de son côté, je le cite, « La plupart des pays d'Afrique suivent des politiques économiques raisonnables, contrôlant les déficits et gardant l'inflation sous contrôle. » Il faut noter que des petits pays comme la Côte d'Ivoire ou le Rwanda, dont on parle peu, connaissent eux une croissance rapide par une simple amélioration du climat des affaires. Autre source d'optimisme, l'Afrique est beaucoup plus paisible qu'il y a 10 ans. Certes, il existe encore des États faillis et des nations en proie au chaos, comme la Somalie ou le Sud-Soudan, mais l'épouvantable guerre qui a ravagé la République du Congo, y causant 5 millions de morts, est en voie d'apaisement. Et surtout, la démocratie a beaucoup progressé sur le continent africain. La proportion de personnes vivant en état de pauvreté absolue reste la plus élevée du monde, mais les progrès sont là, puisque l'Afrique est passée de 58% à 40%. 1% de pauvres, ce qui vérifie la loi d'Amartya Sen, là où existe la démocratie, la famine n'est plus possible. Reste que l'Afrique a besoin en ce moment même d'investissements colossaux pour s'insérer à son tour dans la mondialisation. La Banque mondiale estime leur montant de ces investissements à 93 milliards par an pour les seules infrastructures. Enfin, le développement de l'Afrique pourrait buter sur la menace terroriste qui, là aussi, tend à entraver l'économie. Boko Haram au Nigeria, Ansar Dine au Mali, les Chebabs somaliens et en Afrique, comme partout dans le monde, prolifèrent les cellules cancéreuses de l'État islamique. Comme l'écrivent 3 auteurs, dont 2 responsables importants africains sur Project Syndicate cette semaine, si les États africains ne sont pas capables d'offrir à leur jeunesse les emplois et les institutions dont elle a besoin, les États feront faillite et cela se traduira par l'appauvrissement et la radicalisation potentielle de millions de gens. Fin de citation. Oui, décidément, il n'y a pas qu'au Moyen-Orient ou en Europe que le terrorisme djihadiste constitue une menace mortelle. C'est pourquoi ce spectre doit être combattu en commun. Pas plus en Afrique qu'en Europe, cela ne devrait se traduire par une régression de l'état de droit. Cet ennemi n'est ni construit ni imaginaire. Ce ne sont pas des histoires que l'Occident se raconte. C'est une réalité avec laquelle il faut compter sans renoncer à son éradication.